les podcasts de la 44e édition de Cinéma du Réel.
Journée Réel Université, la leçon de cinéma de Joël Acafou.
Merci d'être de retour après cette matinée qui, je crois, a été assez intense. Pour continuer cette journée Réel Université, j'ai invité Elsa Charby, qui est la directrice artistique déléguée générale du festival Entrevue, festival à Belfort, qui est un festival de premier film, et Joël Acafou, cinéaste qui vient Côte d'Ivoire et Burkinabé, ivoirien, comment tu dis d'habitude?
Ivoirien.
Ah non, l'autre jour tu as dit ivoirien, burkinabé. Hein.
Non, l'autre jour je disais je suis le plus burkinabé de tous les Ivoiriens.
Donc Joël Acafou, qui a eu avec Traversé le Grand Prix à Entrevue en 2020, et le film Traversé est actuellement en salle. Donc si vous êtes intéressé par le travail de Joël, eh bien vous pourrez voir son dernier film, donc Traversé, en salle. Et tout à l'heure, à la séance de 16 heures, après la masterclass, la leçon de cinéma, comme c'est chic de dire, vous pourrez voir son premier long métrage qui s'appelle Vivre riche. Voilà, je vais les laisser officier. Merci Elsa d'avoir accepté de mener cette leçon, et merci Joël de ta présence.
Merci à vous.
Pardon.
Est-ce que ça marche? Oui.
Alors tout à l'heure, je me suis fait engueuler parce que j'ai oublié de dire qu'à 18h30, on se retrouve tous pour boire un verre au Forum moins 1 dans ce qu'on appelle l'Agora, et donc boire un verre tous ensemble avec les professionnels qui sont là aussi à Cinéma du Réel. À tout à l'heure donc.
Alors bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour cette masterclass du cinéaste Joël Acafou. Je suis très heureuse, quoi, et très honorée d'animer cet échange, et je tiens vraiment à remercier le Cinéma du Réel, Catherine Bizerne, donc sa directrice, et puis Suzanne Delacote aussi, qui a organisé ce moment. C'est une joie particulière, effectivement, parce qu'en tant que programmatrice et directrice artistique, j'ai défendu et accompagné le travail de Joël, comme le disait Catherine, donc son premier long métrage, Traversé, qui a reçu le Grand Prix à Belfort en 2020, mais aussi Vivre riche, dans le festival dont je m'occupais précédemment, le Festival du cinéma de Brive, qui était donc son premier film produit d'un format donc moyen-métrage. Et je pense que profondément qu'avec ces deux premiers films, et le troisième volet d'ailleurs qui est en cours, Joël réalise une œuvre très importante de cinéma documentaire sur la question de l'exil, sur le destin d'une génération, en racontant aussi la trajectoire sur le long cours d'un jeune homme en particulier, Touré Inza Junior, alias Bourgeois, et que voilà, il propose un cinéma à hauteur d'homme, sans surplomb. Un cinéma qui nous permet de partager ce parcours du combattant, mais du point de vue de ceux qui le subissent, et en étant à leur côté, ce qui est fondamental et qui est un contre-champ bien nécessaire en cette période sinistre. Et voilà, donc on va bien sûr revenir sur ces deux films très largement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir l'un ou l'autre, ou pas du tout. De toute façon, vous allez pouvoir en découvrir des extraits pendant notre discussion. Mais avant de se lancer vraiment dans cette discussion sur les films, j'aimerais qu'on revienne au début, si on peut dire. Et si tu veux bien, Joël, qu'on dise quelques mots de ton parcours et de ta formation. Alors peut-être pour situer les choses, effectivement, tu es né à Bouaké en 86 en Côte d'Ivoire, donc c'est la deuxième plus grande ville du pays, qui est au centre de la Côte d'Ivoire et qui a été, après l'élection de Laurent Gbagbo au début des années 2000, d'une certaine manière, c'est devenu la capitale de la rébellion et ça a été le théâtre de terribles affrontements. Donc tu as grandi là, mais vous êtes parti vous installer à Abidjan, où tu as d'abord passé en 2008 un bac littéraire, et puis tu as entrepris des études d'art dramatique à l'école de théâtre et de danse d'Abidjan, donc dans le cadre de l'INSAC. Et peut-être pour commencer, nous dire quel était ton rapport, en fait, ton goût ou cette vocation pour les arts, et en particulier pour le théâtre. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça?
Merci. Il faut dire que après le bac, j'ai aucun rapport avec le théâtre ni le cinéma. Je viens d'une famille un peu artiste, je dirais. Ma mère est conteuse. Mon grand-père était grand chasseur, donc conteur. Et j'ai été bercé au son de pas mal de contes africains, qui pour moi, sans le savoir, étaient restés des images dans mon esprit. Et quand j'ai le bac, mon aîné décide, il est professeur, il est scénariste, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai bien envie de la philosophie. Du coup, il dit, ok, tu t'inscris en philosophie, mais tu viens à l'école de théâtre. Et moi, j'aime pas la scène, j'aime pas trop l'image, parce qu'elle est forte. Et du coup, j'accepte parce que c'est mon aîné. Je n'ai pas droit de dire non. C'est comme ça. Et je rentre à l'école de théâtre et en parallèle, je continue la philosophie. Mais en tant qu'autodidacte, je lis beaucoup. Et je finis avec une maîtrise en art dramatique en 2011-2012. Et c'est ce qui a déclenché le cinéma, c'est qu'à l'école de théâtre, comme je n'étais pas bon sur scène, je n'étais pas bon comédien, comme je dis, je n'aime pas être devant. Et j'ai tout de suite commencé à écrire toutes les histoires que ma mère m'avait racontées. Je les adaptais au jour d'aujourd'hui en fonction des situations que je vivais. Parce que ces contes étaient tirés de moralités qui, aujourd'hui, sont les mots qui minent nos sociétés. Et je me suis mis à écrire et du coup, j'étais l'un des premiers étudiants dans cette école à écrire. Donc j'adapte pour mon mémoire de fin de cycle en art dramatique une pièce de théâtre de 128 pages, je l'adapte à un court-métrage de 13 minutes. Et ça touche l'école, j'ai la note, la mention très bien avec 18 suivants. Et au sorti de là, je dis ok, je vais faire le cinéma.
Et tu m'avais dit, je crois que il y avait aussi un moment de résidence avec un dramaturge ivoirien qui avait décelé chez toi un rapport très particulier à l'image dans l'écriture.
Ouais, ça c'est 2010 déjà, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai sauté ça. Mais en 2010, parce que j'ai commencé à écrire en 2 ans quand je suis entré à l'école de théâtre, je n'étais pas bon sur scène, donc du coup, comment arriver à être parmi les meilleurs étudiants? J'ai vu dans la plaquette pédagogique, j'avais écriture, on avait 3 cours sur l'écriture. Un cours sur la scénarisation et un cours sur la dramatique et la poésie. Et moi, quand j'ai mal, j'écris beaucoup de poèmes. Quand je suis content, j'écris des poèmes. Du coup, c'était mon passe-temps, les poèmes. Et les amis allaient dans des concours de poésie, ils remportaient. Et du coup, je suis retenu à une résidence d'écriture organisée par le ministère de la Culture ivoirien. Et quand j'arrive à cette résidence, je me mets à écrire et le formateur, M. Léazéré Kouaouli, qui est aujourd'hui qui est un dramaturge ivoirien, qui est directeur d'un centre de la cinématographie en Côte d'Ivoire, il me dit, toi, tu fais pour le cinéma. Tu écris des images et c'est le cinéma que tu feras. Et moi, tout de suite, je n'entends pas, il dit n'importe quoi. Et 2 ans après, je fais mon premier court-métrage et ça a commencé. Voilà.
Alors effectivement, c'est un virage que tu opères et tu, à la suite de ce diplôme, tu décides de partir pour faire un master en réalisation à l'Institut supérieur de l'image et du son donc de Ouagadougou au Burkina Faso. Et tu réalises effectivement plusieurs courts-métrages d'école, dont Zara en 2015, Noura en 2016, qui sont donc des courts-métrages de fiction et qui sont largement sélectionnés dans les festivals du continent. Alors, comment et pourquoi ton travail s'oriente à ce moment-là vers le documentaire et comment tu rencontres le producteur qui va être celui de tes premiers films documentaires.
Oui, au Burkina, je faisais un master en réalisation fiction. Donc j'arrive le 28 septembre 2013 et le 10 octobre, on avait nos premiers coups avec Benoît Vancouver, un Belge, qui arrivait de l'INSAX pour un coup en documentaire. Et comme moi, je venais d'arriver au Burkina, c'était pas mon pays, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour étudier, j'avais pas envie de rester à la maison. Donc je vais suivre le cours avec les documentaristes. Et ils donnent un exercice, et du coup j'écris un résumé, il me dit « tu écris bien déjà les résumés documentaires, ton sujet est intéressant ». Bon, je n'entends pas encore. Et je reste en fiction, je fais des courts-métrages fiction. Et il y a un appel à projet du réseau dans le temps Africa Doc. Et la cinéaste Aïssata Wama, qui vit présentement à Paris, me dit, elle était en documentaire, moi j'étais en fiction. Elle me dit, Joël, je sens, elle avait déjà fait un court-métrage, je sens que tu traites bien les sujets documentaires, tu écris bien les résumés, tu essaies de postuler. D'accord, je rentre. Et j'avais un projet que j'avais écrit, parce que quand j'arrive du 28 au 10, moi quand je suis arrivé le 28 septembre, le 30 septembre, j'étais déjà à la bibliothèque de l'école. J'ai sorti deux dossiers de la bibliothèque, je suis entré à la maison, je dis, je réécris mes histoires et je fais jusqu'au budget. Donc j'ai fait l'auteur, j'ai fait le producteur. Et donc c'était des projets d'anciens cinéastes, donc c'était moi mes exercices personnels. Et j'avais déjà un projet en tête documentaire qui était sur la personne de Bernard Dadier, qui est le père de la littérature en Côte d'Ivoire. Donc j'écris le projet, je fais le truc. Donc je dis, je postule avec ce dossier. Quand Aïssata Wama me dit, elle me dit, ah non Joël, tu m'as parlé un peu du coupé décalé, de la crise, de ce que tu as vécu. Donc essaie d'écrire un projet sur ça. Donc cette nuit, je rentre, j'écris jusqu'à 3 heures, je sors le premier dossier de Vivre Riche, qui était au départ encaissé la dette coloniale.
Et donc tu vas ensuite, dans le cadre de cette résidence d'écriture d'Africa Doc au Sénégal, travailler l'écriture de ce projet en particulier de Vivre Riche et y rencontrer du coup Florent Coulon.
Oui, c'est ça. Donc le projet est retenu à Bobo Dioulasso, ça c'est la première étape d'écriture. Et on était une dizaine, il fallait retenir quatre ou six pour le Sénégal. Et malheureusement, nous on a perdu dans cette résidence l'année-là deux amis. Dans le crash de l'avion qui a eu lieu au Mali, dans le nord du Mali, avec El Algérie, Lorenzo Biaou et Bakary Diallo, que je salue la mémoire en passant. Ces deux jeunes cinéastes sont décédés, donc du coup on est resté huit. Et ils ont pris six de nous huit, et c'est comme ça que je me retrouve à Saint-Louis, au Sénégal. On retravaille le dossier en deux semaines, et on le pitch devant des producteurs et des télés tels que, Lyon Capital TV. Et des producteurs français, belges qui étaient là, et des producteurs africains, bien sûr. Et je pitch, et Florent Coulon est séduit par le projet, ainsi qu'une autre boîte française, ils étaient deux. Et je décide de travailler avec Florent Coulon.
Alors, ce premier projet donc, documentaire, Vivre Riche, dans ce film, on suit donc un personnage en particulier, Rolex le Portugais, et sa bande, qui sont âgés en gros de 15 à 25 ans, et qui vivent de l'économie dite parallèle, et notamment du broutage. Et donc ce broutage, pour le résumer, c'est une forme d'extorsion de fonds, enfin de soutirer de l'argent par Internet à des femmes occidentales en mal d'amour, pour aller vite. Et on sent dans ce film une jeunesse ivoirienne en perte de repères, mais pour autant bien décidée à améliorer ses conditions de vie, à vivre riche précisément, et d'une certaine manière à récupérer son dû, tel qu'il le formule, c'est-à-dire l'argent de la dette coloniale. Alors il y avait déjà dans tes premiers courts-métrages d'école de fiction, il y avait déjà une dimension politique et sociale très forte. Mais cette fois, tu choisis donc de partir sur une écriture documentaire. Est-ce que tu as, à ce moment-là où tu prépares le projet, avant de commencer à le réaliser, est-ce que tu as déjà une conception de ce que doit être le cinéma, du moins ce qui est ton cinéma documentaire, et une idée précise de la façon dont tu souhaites filmer ces jeunes gens dans leur quotidien ?
Il faut dire que partir de la fiction et se retrouver à faire un film documentaire, c'était vraiment un gros décalage pour moi. Mais j'avais déjà fait un bel exercice. Déjà, étant étudiant, avec Aissata Wama encore. On avait fait un film documentaire, c'était un travail de groupe qui a fini par être un court-métrage qui a eu le Grand Prix des films d'école au FESPACO 2015. Donc là, j'avais déjà essayé de voir comment le tournage documentaire était et comment la fiction était. J'ai pas aimé ce jour-là, c'est vrai, le film a remporté des prix, mais j'étais pas content du travail. J'ai trouvé trop de préparation pour un documentaire. Et du coup, pour moi, c'est vrai qu'on avait touché au travers de ce film le public, mais pour moi, on était moins vrai. Okay. On était moins vrai et pour moi, je n'avais pas assez de proximité avec le personnage. Et je me suis dit, OK, si je dois faire du documentaire, pour moi, c'est d'abord vivre ce que vit, les personnages que je filme, mes protagonistes. Et c'est comme ça que c'était mes premières conceptions de la chose. Et vu que je ne suis pas loin, je décide de ne pas être loin de ces personnes. Pour moi, la caméra ne doit pas être loin. Dans ma tête, je me disais toujours, est-ce que je peux avoir une caméra là, comme un bouton, et je filme à hauteur d'homme, comme je vois, avec mon regard juste. Et j'ai dit, OK, c'est la caméra à l'épaule alors.
Et ça veut dire que tu, si je comprends bien, donc dans cette idée de pas être trop dans l'artifice, mais de vraiment partager l'expérience de ce que tu filmes, ça veut dire que tu les fréquentes longtemps avant de commencer à les filmer. Est-ce que tu tardes à sortir la caméra ou est-ce que dès le début, tu présentes le projet et tu commences à filmer? Comment tout ça s'articule, quoi? Est-ce que c'est du temps passé, des repérages, des phases d'écriture ou est-ce que tu te lances plus directement?
Non, déjà la caméra, je ne déclenche pas. Bon, je n'aime pas me promener avec la caméra. C'est une grosse arme, une bombe nucléaire. Du coup, je la protège. Et je sors toujours sans elle. Et par contre, je suis très près des personnages. Quand je viens voir quelqu'un que je dois filmer, je dis toujours, le bon leader, c'est celui qui touche le cœur avant de demander la main. Donc quand j'arrive pour filmer quelqu'un, je me mets à poil, moi. Je dis, voici qui est Joël Akafou, voici mon vécu, voici ce que je vaux, et voici ce que je cherche à valoir. Et quand je te montre mon principe, je ne t'écoute pas ensuite. Et quand je t'écoute, je ne t'arrête plus. Et donc ça, c'est du temps. C'est du temps, ça peut me prendre 2 ans. Et durant ces 2 ans, je dirais, je vis 4 mois pour moi et 8 mois pour le personnage. Parce qu'un personnage, ça devient un enfant. Un personnage, c'est quelqu'un généralement qui est en difficulté. Un personnage, c'est quelqu'un qui a un trouble et sans le savoir, on devient le spi de notre personnage. Donc on vit ses stress, on vit ses angoisses, on vit ses moments de joie. Et du coup, on ne peut pas exister quand on veut faire exister un personnage. Donc tu t'effaces pour laisser vivre le personnage dont tu le coupes, tu passes du temps. Et pour moi, c'est une démarche qui nous amène à être sincères avec notre narration. Parce que à partir du moment où tu laisses vivre l'autre, tu entends l'autre avec justesse, tu le juges moins. Tu deviens pas un juge pour sa vie, mais tu deviens un regard, tu deviens un miroir pour lui. Et cette démarche, elle est assez importante, elle prend assez de temps, elle nous bouffe assez d'énergie, mais c'est le prix à payer pour moi.
Tu parlais là de 2 ans pour ce film-là, de rencontres préalables, de temps passé, etc., sur aussi longtemps ou...
Oui, le film est sorti en 2017, Vive Riche, il a fait la grande première vision du réel, on a eu le grand prix. Et j'ai eu l'idée du projet, comme je disais, en 2013, début 2014. Donc jusqu'au tournage en 2016, ça fait 2 ans. Mais ce n'était pas ces personnages, par contre. Oui. Sur ce film, il y a eu un coup de théâtre. J'avais des premiers personnages qui m'ont lâché, je dirais à 6 mois ou 8 mois du tournage. Et c'est comme ça que je rentre encore à chercher de nouveaux personnages. Je rencontre Rolès à... 6 mois, ouais, 6 mois du tournage, je rencontre. Et les 6 mois, je fais 1 mois avec lui à Ouagadougou. On rentre à Abidjan ensemble. Donc je fais 5 mois avec eux.
Et tu vas les filmer au total sur quelle temporalité? Ça dure combien de temps le tournage de Vivre Riche?
En thème de production, ça dure 1 mois. Okay. En thème de production, ça dure 1 mois. Mais on ne filmait pas tout le temps. J'ai eu aussi, je dirais, la personne que je salue au passage, Dieudo Amadi, qui a fait les images, qui est pour moi l'un des meilleurs documentaristes africains et dans le monde. Et j'ai eu la chance d'avoir ses premiers conseils, d'avoir son expertise, parce qu'il n'était pas son premier film, lui. Et c'est comme ça que on filme sur moi, mais par contre, je déclenche la caméra avant qu'il n'arrive. Voilà. Donc du coup, je crée déjà un lien avec les personnages avant qu'il lui n'arrive. Et c'est ce qui fait que quand c'est pas moi, ils s'en foutaient, mais ils étaient déjà habitués à la caméra.
Ben, je vous propose peut-être qu'on voit un premier extrait que j'ai choisi donc, d'une petite virée nocturne qui est plutôt au début du film. C'est l'extrait numéro 1 et on va en reparler juste après. Alors, on sent dans cet extrait effectivement une grande confiance et on sent que voilà, il y a eu du temps... qu'il y a une relation, une évidence comme ça de la présence de la caméra. Ce qui me paraît frappant dans cet extrait, et je trouve assez représentatif de ton travail, c'est qu'on est quand même dans un style documentaire complètement immersif. On est vraiment de plein pied dans le réel, on est en caméra portée, voilà, on est dans le feu de ce qui se passe. Et pour autant, tes personnages revêtent presque un caractère de personnages de fiction. Et dans la séquence qu'on vient de voir, par contraste, presque, certains plans, c'est-à-dire les plans qui ne sont pas directement sur eux de façon resserrée, mais qui vont filmer la vie autour, en plan plus large, finalement interviennent presque comme de brusques retours au réel, comme si c'était presque des incises documentaires dans un film qui serait presque un film de fiction. Et je pense par exemple à ce plan très frontal que vous venez de voir sur ces gens qui dansent face caméra, et c'est ce plan de foule d'ensemble. Donc c'est très surprenant comment à l'intérieur du documentaire il y a comme des niveaux, des valeurs narratives différentes. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu articules toi ce rapport entre en gros d'un côté captation du réel et une forme de dramaturgie, c'est-à-dire au tournage ou au montage? Comment tu est-ce que c'est un voilà est-ce que ça correspond à un désir de fictionnaliser de romancer ou en tout cas comment tu vois toi ce rapport entre ces plans?
Oui, comme déjà c'était bien dit, je viens de la fiction et vite fait à l'école de cinéma quand j'ai pas été voir des films documentaires qui me touchaient assez, je disais j'ai tout de suite sorti ces massismes à moi-même qui je dis quand un documentaire réussit il ressemble à une fiction. Quand une fiction est réussie, elle ressemble à un documentaire. Et tout de suite, quand on doit tourner déjà au départ, on se projette vraiment dans l'imaginaire. On se projette dans l'imaginaire, là, à l'écriture du dossier, et c'est là que j'ai vu la force du ressenti du documentariste. C'est-à-dire, bon, j'ai peur aujourd'hui de penser des choses parce que ça arrive. Quand j'écrivais le dossier en 2014, j'ai dit je commence le film avec deux cercueils dans le dossier en 2014. Je filme en 2016, deux jours après qu'on commence le tournage, on a des funérailles avec deux cercueils de deux jeunes. Donc c'est des choses que j'avais pensées, c'est des choses que j'avais vécues, c'est des choses que je connaissais et que le réel m'a redonné sur un plateau d'or. Donc je savais qu'il y avait du monde, je savais qu'il y avait ça, je savais quand même l'ambiance. Et du coup, les jeunes, ils étaient déjà habitués à la caméra. Je savais que je voulais une caméra en mouvement pour montrer toute l'énergie de cette jeunesse. Je savais qu'il allait y avoir de la bagarre qui n'est pas vue dans le film. Je savais qu'à arriver un moment, il fallait fuir du coin parce qu'il allait y avoir des moments chauds. Et c'est tout ce que j'avais pensé est arrivé au tournage. Donc déjà, ça veut dire il y a déjà la connaissance de son sujet. Il y a déjà aussi la maîtrise de son propos, de pourquoi on veut cette séquence, de pourquoi on pense. Du coup, ça nous amène à tourner en montant. Bon, c'est fou, mais quand je tourne, je dis je sais où l'utiliser. Quand je tourne souvent des séquences, je sais que je ne vais pas utiliser dans le film. Et généralement, au montage, j'ai 60% jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu raison. C'est sûr qu'on ne le touche pas. Et j'ai tourné, je dis au monteur vite fait, je sais qu'on ne va pas toucher ça. Et c'était des très bons monteurs qui ont monté les deux films et on a fini parfois par me donner raison. Et même quand les séquences étaient fortes, je sens que ça ne marche pas. Mais je devais filmer pour moi. Parce que quand tu filmes, tu vis aussi. Tu vis la chose. Mais à la fois, la chose qui est intéressante, c'est que quand tu penses le film, ça te permet de ne pas filmer assez. Pour Vivre Riche, on a eu 18 heures de rush. Pour Traverser, on avait 20 heures de rush. Donc, quelque part, le fait de venir de la fiction m'a amené à aimer beaucoup les choses découpées. Donc, et je dirais maintenant, avec le documentaire, avec l'écriture documentaire, quand j'ai compris qu'il fallait que je pense, il fallait que je maîtrise mieux mon projet, ça m'a amené à penser des séquences, à penser des choses. C'est vrai que le réel m'a donné plein de choses que je ne pensais pas. Mais si j'ai utilisé, je dirais, 50 séquences pour le film, j'ai pensé 20 et le réel m'a donné 30. Donc il faut avoir vraiment une maîtrise, il faut vraiment connaître ses personnages, il faut connaître dans quel angle il filme, il faut savoir quand ils sont beaux, quand ils sont laids. C'est ça aussi, montrer son personnage. Il faut le connaître, je dirais, photographiquement.
Ouais. Effectivement, c'est dans ce caractère ou cet accent de fiction qu'il peut y avoir dans Vivre Riche autour d'eux. C'est vrai aussi que voilà, ils ont un charisme énorme, une élégance que tu sais filmer et relever. Ils sont eux-mêmes beaucoup en représentation. Par ailleurs, mais il y a aussi ce qui t'appartient plus directement, c'est-à-dire tes choix de mouvement de caméra. C'est vrai que dans cette séquence, il y a quand même, ça accueille un espèce de plan séquence à l'intérieur de la séquence de près de 2 minutes, que vous avez dû remarquer, cette déambulation où, avec un plan hyper tournoyant. Donc on est dans un, c'est assez rare aussi, et c'est tout ce que tu expliques, de connaissance du sujet, des lieux, des gens, etc., qui t'autorise une typologie de plan qui serait plus de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire de tournoyer autour des gens, de risquer des mouvements d'appareil un peu compliqués. Et puis par ailleurs, quand tu signes une discussion, comme à la fin de cette séquence, finalement c'est extrêmement découpé, c'est-à-dire que tu prends le risque, tu es quand même à une seule caméra. Tu changes d'axe régulièrement, tu fais des inserts sur tel et tel, je veux dire, tu pourrais très bien suivre la conversation d'ensemble, pas noter. Tu prends ce risque-là comme si, effectivement, là, tu parles de tourner-monter, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que... Après, ça se fait au montage, bien sûr, en grande partie. Mais c'est très particulier, cette façon de faire, il me semble.
Oui, c'est... Je ne m'en rendais pas compte, vraiment, moi-même. C'est sur le montage de Traversée. Et quand Jeanne Aubesson, que je salue au passage, a dit, tu es fou, tu as coupé là. J'ai dit, oui, il n'y avait plus rien derrière, au fait. Elle dit, tu coupes quand tu sens, quoi. Donne-nous un peu de marge au montage, nous. Et c'est, je dis non, mais je sens plus, je coupe.
Voilà. C'est quand même extrêmement particulier. Et puis il y a une chose qu'on voit moins là dans cette séquence-là, mais c'est qu'aussi tu rajoutes dans Vivre Riche, là c'est une dramaturgie plus du montage, l'usage de voix off qui viennent sur des plans où on accompagne tel et tel personnage, surtout Rolex en l'occurrence, le héros on va dire, qui nous permettent aussi d'être dans le fort intérieur, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans une empathie et dans une qui nourrissent aussi des personnages de façon un peu plus dans un récit quoi, on va dire un peu plus fort. Si vous avez, puisque vous pouvez tout à fait intervenir au fur et à mesure, bien sûr. Donc si jamais sur cet extrait particulièrement vous aviez envie de revenir, n'hésitez pas. Il y a des micros là qu'on viendra vous emmener, si jamais. En tout cas, n'hésitez pas à demander la parole au fur et à mesure. On va regarder un deuxième extrait de Vivre Riche que tu as choisi et qui est donc une séquence de broutage à part entière. C'est l'extrait numéro 2 et on va en parler là encore juste après. Alors là, on est dans la captation assez miraculeuse d'une opération réussie, qui j'imagine était un enjeu de ce film, d'arriver à attraper ça, que tu filmes de bout en bout et qui donne d'ailleurs presque l'impression d'un temps réel, même si on imagine qu'il y a de nombreuses ellipses, mais... Et puis de la soirée qui s'ensuit, du lâchage festif qui arrive après. Et ce qui est très beau, enfin, il y a un mouvement très fort dans cette séquence parce qu'on part d'une tension importante, un peu comme un film d'action comme ça, mais un peu retenue devant l'ordinateur. Et puis à partir du moment où c'est gagné, le film s'emballe, le montage s'emballe, devient beaucoup plus vif. Tu démultiplies les plans, beaucoup plus courts, il y a des inserts. Ce qu'on voit beaucoup moins le reste du temps, des gestes, l'argent, qui est très, évidemment très au centre de tout ça. Et voilà, donc il y a cette construction qui va vers une explosion, que je trouve très, ce que je trouve très beau, et puis cette retombée un peu brutale comme ça sur les lendemains qui déchantent. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vraiment concrètement tourné cette séquence, le temps que ça a pris pour arriver à ce moment de filmer le cœur de la question du film, cette activité du broutage, et comment tout ça s'est passé?
Déjà, il faut dire que, comme il appelle dans le film, la cliente, c'est une de leurs clientes. Du coup, s'ils n'étaient pas au premier encaissement avec elle, mais là, ils avaient déjà encaissé, je crois, 500 euros, et là, ils vont en crescendo, ils demandent 200, 500, 600, jusqu'à arriver à 3000, à 10 000. Donc là, ils étaient arrivés au niveau de 1500 euros. Et sans trop dévoiler le film, mais Bourgeois avait vendu un gros mensonge du genre son fils Martin est malade, du coup, voilà, il a besoin d'argent pour aider son enfant qui est souffrant. Et la dame qui est derrière l'écran compatit. Donc du coup, c'était deux mois avant, trois mois avant même qu'on déclenche la caméra. Ils étaient déjà avec elle. Et là, parce que comme je dis, je passe tout le temps, j'ai dormi, vous voyez dans la pièce là où ils ont dormi, j'ai dormi par terre, sur le tapis. Je dormais là, j'ai fait cinq mois là, avec eux. Donc je connaissais à quel moment ça avance, je regardais dans le truc, je regardais faire, je voyais tous les faits et gestes, comment ils se rassemblaient autour pour chacun apporter un mot, apporter une stratégie, apporter quelque chose pour que la NAC avance. Donc je savais à quel moment ils étaient sérieux, à quel moment là il y a quelque chose qui se passe. Et quand rien ne se passe, ou soit Bourgeois il sait qu'il ne demande pas, ou soit un d'entre eux est avec, à la première étape de son anac avec sa cliente ou son client, il s'assoit seul, il écrit, là il fait ce qu'ils appellent le love, il lui vend des mots doux, des poèmes. Là c'est pas encore le moment de l'argent. Et ça j'avais déjà. Et quand le moment de demander à cette dame les 1500 euros sont arrivés, déjà j'ai demandé à Bourgeois, mais tu penses dans combien de temps tu pourras? Il dit non, dans 10 jours. Dans 10 jours, je sais que je peux passer, mais il n'a pas attendu les 10 jours, il a fait ça en 7 jours. Donc ça m'a donné une image. Je me dis, entre 5 et 10, là, je dois commencer à être tout le temps concentré. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'étais là au bon moment, parce que par moment, je me retirais un peu d'eux, où je m'isolais pendant 4 heures dans un hôtel où je dormais, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et cette séquence était assez lourde, parce que j'ai filmé depuis le matin. Très tôt, 8 heures, il était déjà debout, il était seul, il a échangé avec elle, elle allait faire des courses et lui aussi s'est couché un peu, et vers 16 heures, ils ont repris. Il a appelé tout le groupe pour dire venez m'aider, là elle veut payer, je sens qu'elle va donner. Donc j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de tout le monde. Donc quand ils sont venus, ils ont dit non, c'est le moment, j'ai senti le moment et j'étais du coup à la bonne distance et je savais comment ils s'y prenaient, comment ils s'asseyaient, comment. Donc c'était quelque chose visuellement que j'avais imagé dans mon subconscient. Donc c'était maintenant pour moi le jour J de la représenter. Vous n'imaginez pas vivre avec ces jeunes, c'est chaque jour, c'est de dormir à 5 heures. C'est des gros fêtards. Et ce jour-là, ça marche, on va en boîte, je suis épuisé, Dieudo m'a dit il n'en peut plus. Et lui ne dormait pas avec nous, lui vivait dans une résidence. Et je lui dis ok t'inquiète, j'assure le reste du tournage. Donc les derniers plans où ils sont couchés, c'est moi, la main tremblante, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Mais je savais que c'est comme ça allait finir et je voulais vous montrer cette image. Voilà.
Et peut-être pour sur l'ensemble du film, de ce film Vivre Riche, est-ce qu'ils ont au fur et à mesure vu des rushs de ce que tu filmais? Est-ce qu'ils ont demandé à voir un peu ce que tu filmais? Et au final, que ce soit oui ou non, comment ils ont réagi quand ils ont découvert le film?
Oui, non, bon, ils n'ont pas demandé à voir les rushs. Et... Par contre, par moment, je faisais des photos. Je leur montrais les photos. Voilà. Du coup, ils n'ont pas demandé à voir les rushs. Et quand le film est sorti, je disais que c'était un peu tendu pour nous, pour l'ensemble du groupe, parce qu'il y avait Bourgeois qui était en Libye. Et donc, c'était moins le film, c'était tous ensemble, il ne faudrait pas que Bourgeois meure. Donc, ils étaient moins, je dirais, intéressés. Mais par contre, j'ai envoyé le lien aux parents de Rolès pour voir parce que j'ai filmé sa famille. aussi aux parents de bourgeois, parce que j'ai filmé aussi sa famille. Et les jeunes, j'étais plutôt fier. Ils étaient dans, parce qu'on avait ensemble, je dirais, les mêmes trajectoires en faisant ce film. Je leur disais pourquoi aujourd'hui je suis devenu cinéaste et pourquoi je voulais traiter ce sujet. Et est-ce qu'ils pensaient que les raisons pour lesquelles je décidais de poser ma caméra au sein d'eux résonnaient dans leur esprit? Ils ont trouvé que c'était juste et que mes intentions étaient nobles. Et ils m'aidaient autant qu'ils peuvent à dire ce que tout le monde dit tout bas, à dire ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est comme ça que ils ont été. C'est ce qui m'a donné la grâce de faire le prochain sous-bourgeois sans gêne, parce que il dit ok, tu es dans la démarche où ce que tu dis, c'est ce que tu fais.
Effectivement, et là vous en avez vu que deux extraits, et donc je vous encourage vivement à aller le voir en entier. Il passe à 16h40 à la suite de cette séance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une parole qui est très importante. On en a capté là des petits bouts, mais il y a des vrais moments d'échange de fond sur ce qu'ils font avec les familles, de réflexion politique aussi sur ce que tout ça induit. Ils sont vraiment très largement, on les écoute, on est avec eux. Il y a vraiment un profond respect et voilà, et comme ce qu'on disait au départ, quoi, pas du tout de surplomb ni moral ni. Voilà, mais du coup, tu disais, là, en terminant, tu parlais de bourgeois qui, au moment où le film est terminé, est en Libye. Et donc, après Vivre riche, tu entreprends un nouveau film, qui est ton premier donc, long-métrage documentaire, donc Traversée, qui a été présenté à Berlin, qu'on a montré aussi dans plusieurs festivals, et qui est sorti en salle, ce que disait Catherine, au mois de janvier. Et dans ce film-là, Traversée, on retrouve du coup l'un de ses protagonistes, donc bourgeois, si jamais vous ne l'avez pas localisé, c'est dans la séquence qu'on vient de voir, c'est vraiment lui qui est au centre devant l'ordinateur et qui a la manœuvre pour ce moment d'hameçonnage. Et c'est lui aussi d'ailleurs qui porte, non sans ironie, ce t-shirt blanc comme un tableau de chasse ou un blason avec cette femme blanche et blonde décolorée. Et donc on suit, tu retrouves Bourgeois qui a tenté sa chance, qui a miraculeusement atteint l'Italie, et qui au moment du film et au moment de ce qu'on voit dans Traversée espère et va essayer et va passer en France. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu donc combien de temps s'est passé entre ces deux films? Donc, à la fin de Vivre riche, il est visiblement déjà parti, puisque tu dis qu'il est en Libye à ce moment-là. Combien il y a de temps entre les deux, et pourquoi tu décides de reprendre le fil de son histoire à lui? Comment ça se passe tout ça?
Oui, je pense qu'au maxi, il y a un an, 6 mois. Maxi, sinon un an, ou 9 mois, je ne sais pas, mais ça s'est joué juin, novembre. J'étais en montage. On a fini le tournage en juin. En novembre, j'étais en montage. Il était déjà en Libye. Okay. Donc, du coup, 6 mois, maxi 8. Et comme je disais, je me suis mis à nu devant ces jeunes. Et tous ces jeunes, je connais toute leur histoire. Je connais leurs aspirations. Je connais leurs peurs. Je connais leurs craintes. Je les connais. Et quand Bourgeois m'appelle, quand je suis en montage de Vivre riche, il me dit, j'ai une minute pour te dire d'envoyer 300 dirhams pour payer ma prison. Et à peine je demande, tu es où? Il dit, c'est en Libye, c'est coupé. Donc on rappelle le numéro, j'ai dit, ok, on envoie l'argent. Avant de poser la question, on fait comme des soldats, ça tire, sans question. Et on envoie et il sort. Et le surlendemain, j'appelle. Quand tu envoies, il faudrait que les gars reçoivent d'abord avant de le libérer. Donc ça a duré 2 jours. Il sort, il me recontacte et je lui dis ok, je comprends. Tu as touché le plafond, ça va plus. Je comprends, mais n'essaye pas de traverser la Méditerranée, tu vas mourir. Ça, je te le dis cash, tu vas mourir. Et moi, j'ai pas envie de te perdre, pas en ce moment où je suis en montage du film, de ce que on a réalisé ensemble et de ce qu'on a raconté ensemble. Et j'aimerais que tu vois ton film. Donc, je n'ai pas envie de faire un deuil à la sortie de ce film, mais s'il te plaît, tu retournes. Et c'est là qu'il m'a sorti la phrase, qu'il m'a dit tout de suite, quand je suis entré en salle de montage, j'ai dit au producteur, je vais faire l'autre film. Il m'a dit, mieux vaut mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. Et il a coupé. Voilà.
Qu'est-ce que, du coup, avant qu'on regarde un premier extrait de Traversée, du coup, entre le moment où tu raccroches, tu appelles ton producteur et tu décides, de, en rebond à ce que tu viens d'entendre, de, d'engager ce deuxième volet, on peut dire, ce deuxième film, c'est combien de temps ensuite de tournage, quoi, comme, entre le moment où tu le retrouves, ça s'étale sur combien de mois, le tournage de Traversée ?
C'est, je pense, c'est six mois. Quand il a coupé, j'ai plus eu de ses nouvelles. Voilà, c'est ce qu'il m'a fait.
Ah oui.
Il m'a fait ça pendant 3 mois. Il sortait de prison quoi à nouveau. Et il m'a rappelé. Je lui dis, ok, voici ce que je te propose. Je te propose un billet d'avion sur le Mali. J'envoie l'argent. Tu reprends la route de la Libye au Mali. Tu prends le billet. Tu vas à Abidjan. J'avais pas encore touché totalement tous mes droits de réalisateur. Je te donne 2000 euros. Il dit, ok, ça marche. Donc, j'envoie 1000. Et il retire l'argent, il paye sa traversée. Et c'est quand il est arrivé dans le Campo, en Italie, qu'il fait une vidéo avec Messenger qui m'envoie. Et là, j'avais 2 mois, j'étais invité à Black Movie avec Vivrich. Et la production, quand j'ai dit je faisais le film, ils m'ont dit, mais s'il meurt, tu fais quel film? Je dis, je fais un film quand même s'il meurt. Il y a quelque chose à raconter. Et Dieu merci, il n'est pas mort. Et la production n'a pas suivi le mouvement. Ils n'ont pas suivi. Mais par contre, ils disent, ok, on ne sait pas trop ce que tu vas raconter. Mais je dis, ouais, je n'ai pas envie d'aller à Turin avec une feuille, avec un stylo. Je vais aller avec mon âme. Parce que je sens que je dois me défendre. Il y a des choses qui se passent, je sens. Et tout de suite, je crie à Black Movie, je dis, excusez, j'ai besoin que vous preniez le billet 4 semaines avant le festival. Et ils acceptent. J'étais gentil, ils acceptent, ils me prennent le billet. Et le billet, ils le prennent sur... Je descends sur Paris d'abord. Je prends du matériel, je n'avais pas encore ma propre caméra. Donc je loue du matériel. Je prends le train, 7 heures de route. J'arrive à Turin. Et quand j'arrive à Turin... La première image, c'est la première image du film à Turin.
Alors, on va regarder justement que tu filmes cette fois-ci entièrement seul, hein, traversé.
Ouais, seul.
Ouais. On va regarder donc la toute première séquence qui ouvre le film, qui est donc cette séquence d'ouverture, qui est juste avant ce que vient de décrire Joël, c'est-à-dire le moment où on arrive côté italien. Il y a une espèce de prologue que vous allez découvrir tout de suite. C'est donc l'extrait numéro 3. Alors, le film s'ouvre donc en Côte d'Ivoire, avec cette cérémonie et ce coup de fil, dont le reste du film va être finalement le contre-champ, puisque c'est Inza qui est au téléphone avec sa grand-mère. Si je ne me trompe pas. Ça nous donne pas mal de clés, en fait, cette ouverture sur les raisons de l'exil, c'est-à-dire à la fois la pression sociale, le devoir familial, quoi, cette idée d'être le bénéfice de ses parents, ne pas décevoir, qu'on va retrouver, hein, plus tard aussi. Donc les raisons qui font qu'on trouve le courage ou la nécessité de partir, mais aussi tout ce qu'on laisse derrière soi. Et ça pose vraiment ces deux paramètres-là. On sent et on sait, parce que tu l'as très bien expliqué, à quel point là on est dans une inscription du travail dans la durée, puisqu'il y a eu Vivre riche, il y a tout ce passif. On imagine aussi que tu as peut-être eu l'occasion de rencontrer la famille de bourgeois au moment de Vivre riche, et que ces gens te livrent leur intimité en totale confiance. C'est-à-dire que là tu assistes quand même à un moment extrêmement intime et particulier de cérémonie funéraire, enfin de... ou d'hommage, je sais pas comment on peut le qualifier tout à fait. Mais en plus de pouvoir filmer ça, tu es carrément au beau milieu. C'est-à-dire que tu es entre eux, parmi eux. En tout cas, c'est l'impression que donne la façon dont c'est filmé. Et tu nous plonges vraiment dans ce rituel. C'est-à-dire que c'est une séquence très particulière où on se laisse embarquer complètement. Alors, voilà, nous dire peut-être à la fois comment tu as tourné cette séquence que je trouve extrêmement belle en termes de réalisation. Et pourquoi cette envie d'engager le film comme ça ?
Déjà, je savais que en étant en 2018 ou 2019, ça faisait 3 ou 4 ans que le père de Enza était décédé. Donc du coup, quand j'ai rencontré Enza avant, pendant Vivre Riche, chacun, j'avais parlé avec chacun et je sais le mal qu'il avait avec son père. Enza Junior a été un brouteur professionnel, je peux dire comme ça. Il a touché beaucoup d'argent. Et un jour, il a débarqué chez son père avec 50 000 euros. Il a été chassé par son père, qui a dit, moi, je ne touche pas à l'argent sale. Tu vas dépenser ailleurs. Et quand il est venu à Abidjan, le temps de finir de dépenser cet argent, son père est décédé. Donc, il n'a jamais pu se réconcilier avec son père. Et ce mal le ronge pour lui. Et pour moi, déjà, c'était un clin d'œil pour lui. Pour dire, t'as pas été là le jour de... Parce que c'était le jour de l'anniversaire du décès du père. C'est le jour... T'as pas été là, mais j'étais là. J'ai pu saisir ce moment pour que tu le voyes. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est construit. Je savais que cette année encore, ça faisait 7 ans, le 2 mars, j'étais là-bas. Son père est décédé le 2 mars. Et chaque année, ça devient un rituel pour moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un membre de la famille. Ouais, et donc je le représente parfois, je suis parfois son père, même si je ne suis pas encore mort. Et c'est comme ça que j'ai pu saisir le moment. Et avec cette famille, c'est plus Joël Akafou le cinéaste, c'est une caméra avec Joël. Voilà.
Vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur ce que vous venez de voir. Ah oui, il y en a une.
Oui, bonjour Joël et merci pour votre masterclass. J'ai hâte de voir votre documentaire tout à l'heure. En fait, ma question, elle posait sur la notion de distance face au sujet. On nous dit souvent en tant que réalisateur qu'il faut faire attention à la distance qu'on met pour rester critique. Et comment vous gérez cette distance en étant autant en immersion ?
Oui, merci pour la question. La question de la distance, c'est... Moi, je dis la distance, elle ne doit pas être physique. Elle doit être dans la tête. C'est là que tu prends déjà de la distance. Avant d'aborder un sujet, on a toujours des préjugés. Toujours. Et quand on découvre le sujet, on découvre le personnage, on s'en rend compte que parfois nos préjugés, nos jugements sont dépassés. Du coup, on a la distance maintenant. Mais la distance physique, ça ne doit pas. Pour moi, quand tu veux être en immersion, surtout, tu peux accorder, si tu te sens épuisé, si tu sens que le personnage te bouffe beaucoup d'énergie, n'hésite pas à fuir. C'est pour ta santé. Mais si tu sens que tu arrives à porter ton personnage, ton protagoniste, tu arrives à porter tes personnages, même malgré l'énergie qui te puise, reste là. Si ça ne te gêne pas, reste. Tu vas gagner plus. Parce que après, filmer en immersion sans qu'il y ait un gars caméra sur 20 heures de rush, c'est quand même incroyable. Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Merci.
Ça marche.
Oui. Merci beaucoup pour ce bon travail. En fait, moi, la question va un peu dans le sens de la précédente. C'est que très souvent, on nous dit qu'il faut la distance beaucoup plus dans le sens où il ne faut pas aider le personnage. Quand le personnage est dans les difficultés, c'est ce qui fait un peu le film. Mais dans ce que vous avez dit tout à l'heure, quand il était dans les difficultés, vous étiez obligé de lui envoyer de l'argent pour l'aider. Est-ce que ça ne fait pas un contraste ?
Non, ce qu'on vous a dit est juste et ce que je dis n'est pas faux. Si je m'explique, c'est que là, ce n'était pas encore le film. Ce n'était pas le film. Je ne l'ai pas aidé dans le sens de pouvoir aller en Europe, mais je l'ai aidé en tant que dans le sens de pouvoir revenir. Et lui l'a utilisé pour passer. Donc du coup, ce n'était pas encore le film. Par contre, aider son personnage, c'est pas le cinéaste, au fait. Il faut pouvoir dissocier, arriver un moment, à quel moment on est le cinéaste, à quel moment on est... l'ami du personnage, parce qu'on devient l'ami, on devient soit le parent, on porte le personnage. Tu peux pas filmer quelqu'un s'il n'y a pas de lien, ça sera tendu, la personne n'est pas à l'aise. Du coup, quand j'ai des bourgeois, c'était le grand frère, c'était l'Ivoirien, c'était l'Africain, c'était l'humain qui aidait un autre humain qui était en prison. Donc ce n'était pas un coup de main pour que mon film puisse avancer. Et c'était juste, on a vu tous les reportages de CNN sur les migrants, et quand tu entends ton personnage te dire « je suis en prison en Libye », tout de suite, tu te dis « ok, il faut que je sauve ». En dehors même de mon personnage, si ça aurait été un ami d'enfance, j'allais faire le même geste. En fait, ce n'était pas dans le sens du cinéma. Maintenant, aider le personnage pour que, quand il est en difficulté, il faut voir traverser, tu vas voir comment il est en difficulté et comment je me mets en difficulté pour ne pas aider.
Et effectivement, il se trouve que les deux extraits qu'on a choisi de traverser, c'est vraiment les deux, sans doute les deux moments, vous allez en voir un deuxième là tout de suite, c'est vraiment les deux moments les plus, je ne sais pas comment dire, de très grande émotion, de très grande intimité. Donc cette séquence d'ouverture et ce moment de rituel, et puis cette séquence qu'on va voir. Et effectivement, ça pose nécessairement plus directement la question de l'éthique, de la distance, jusqu'où je filme, dans quelle mesure un personnage qui est dans un état de détresse est conscient de l'image qu'il donne, etc., etc. Ça, c'est évidemment des questions absolument essentielles et cruciales de la position du documentariste. Alors, elle n'est pas toujours nourrie d'autant de compagnonnage et d'amitié et de temps long. Et là, vous allez voir un extrait, je pense, extrêmement intéressant de ce point de vue, qui est un moment qui est un peu le match retour du premier coup de fil. C'est Inza, donc junior bourgeois, pardon, qui appelle sa mère depuis l'Italie. Et voilà, donc c'est le quatrième et dernier extrait qu'on va voir. C'est l'extrait numéro 4 et on en parle juste après. Alors là, c'est en plein dans les questions que vous veniez de soulever, je crois, avec quelques éléments de réponse qui sont à l'intérieur de la séquence et qui sont à l'intérieur du film tout le temps, c'est-à-dire la présence très clairement de votre relation, la présence de toi, de la caméra, le fait qu'il s'adresse très directement à elle et à toi, au passage, qui raconte que vous faites le film à deux, vraiment. Et que ce qu'on voit dans Traverser, qui ressort très fort dans cette séquence, c'est que Bourgeois, il a différentes façons de se présenter, selon avec qui il est, que ce soit avec les amis, vis-à-vis de sa famille, dans le discours dans lequel il est avec la famille, et vis-à-vis de toi. Et que finalement, c'est à toi qu'il livre ses vraies réflexions les plus profondes, ses désarrois, ses angoisses, etc. Que finalement, c'est la relation où il est le plus transparent, le plus honnête, elle est avec toi. Et du coup, effectivement, ça autorise peut-être, donc c'est un peu la question, mais cette séquence très puissante, extrêmement longue, disons par rapport à ce qui s'y passe, évidemment, pas en soi, où on le voit s'effondrer progressivement. On parlait de à l'instant là de rôles qui sont joués, mais enfin il y a le visage, quoi, c'est-à-dire passer du rire aux larmes, c'est un peu les masques tragédie-comédie, hein. Il passe de l'un à l'autre, enfin c'est assez stupéfiant tout ce qu'on voit. Et il s'effondre progressivement, et à un moment on se dit que tu vas couper, parce qu'on arrive dans un moment de détresse, de larmes. Il y a cette accalmie, il s'allonge, tout paraît indiquer que c'est le moment de couper l'image, mais tu continues, et tu vas jusqu'à attraper ce moment encore plus intime, presque enfantin, comme ça, très démuni, très... donc voilà, peut-être par rapport à ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que tout ça engage et comment tu comprends, toi, l'engagement de Bourgeois pour le film et ce rapport qu'il a à ta caméra.
Oui, cette séquence, c'est... J'ai encore un peu de l'âme là. Ouais. C'est une séquence, ça me rappelle quand je suis arrivé à Turin. Je suis arrivé dans la nuit, pratiquement vers 17-18 heures. Donc je filme en même temps et ça, c'est vraiment dans le temps. C'est le lendemain matin. Il veut parler à sa mère, parce que je suis revenu avec des plaisants. Si vous voyez le film, vous allez voir. Donc il veut dire à sa mère, Joël est là, il m'a envoyé les plaisants, tout et autres. Et je me mets à filmer. Mais moi, je ne savais pas que j'avais gardé beaucoup, au fait que j'avais plein de larmes dans mon ventre qu'il fallait que je dévaisse. cette séquence, j'ai pleuré de là, il était 9h jusqu'à 13h. Parce que j'avais mal. Pour moi, Bourgeois allait mourir. Au fait, le revoir en chair et en os, pour moi, c'était un ressuscité, au fait. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin de pleurer, comme lui. J'avais besoin aussi de me mettre. Donc, quand il pleure, je suis en larmes quand je filme là. Donc, je pleurais avec lui et j'avais besoin aussi de faire sentir à la caméra qu'il y avait cette intimité de l'âme entre nous. Et quand je coupe la caméra, il rentre vraiment dans un délit. Il me raconte, il me cite sur le champ en moins de 3 minutes 20 noms de 20 amis avec qui il a fait la traversée qui sont morts. Donc on reste en larmes, on se parle, on se dit les mots. Et je lui dis combien de fois j'ai eu mal. Et après ça, on enchaîne avec le film, quoi. Et c'était un moment vraiment intime avec sa famille, aussi avec moi.
C'était nécessaire de ce moment de se retrouver après tout ça, effectivement. Moi, je ne regarde pas cette séquence non plus sans être sacrément attrapée par l'émotion. Est-ce que vous avez envie, de justement, par rapport à la discussion qu'on avait, de réagir à cette séquence? Est-ce que ça pose aussi pour vous des questions particulières? N'hésitez pas, en tout cas. Peut-être le retourne malheureusement, mais je crois que c'est important aussi pour répondre aussi à ces questions qui étaient posées, de savoir comment. Voilà, parce que le film est bon, le film est magnifique. Hein, je vous recommande vivement de le découvrir. Il nous amène donc dans ce parcours terrible jusqu'en France. Hein, le film se termine à Paris. L'arrivée à Paris et laisse en suspens cette trajectoire ce compagnonnage qu'on a donc depuis Vivre Riche avec ce personnage. Et tu continues de tourner ce qui serait d'une certaine manière un troisième volet, ça veut dire la situation initiale, le désir peut-être d'ailleurs, le saut violent vers un soi-disant Eldorado, comme il le dit très bien lui-même quand il a sa famille au téléphone. Et puis, je crois, la situation actuelle et la nécessité du retour.
Ouais, c'est bon. Sur Traversée, quand on a fini Traversée, tout de suite, je me suis dit, oh, il n'y a jamais 203. Il n'y a jamais 203. Et j'ai dit, OK, peut-être qu'on va faire un troisième. Je le dis comme ça, et après, je vais sur un autre projet documentaire. Je me mets à écrire un autre projet qui me tient aussi plus à cœur, parce que moi, je dis, je fais des films pour guérir. J'ai compris que je ne raconte pas ce qui est loin de moi. Je raconte des histoires parce que je suis malade, et quand je fais un film, je guéris d'une maladie. Et du coup, j'avais besoin de guérir d'une autre maladie avec d'autres personnages, et je suis allé sur ce projet. Et c'est comme ça que Kader, qui est un des personnages de Traversée, me fait signe, me dit qu'il vient de perdre son père. Et il venait d'avoir les papiers quelques jours avant, il m'a envoyé le dernier appel vidéo WhatsApp qu'il a fait avec son père, je crois 2 ou 3 minutes avant que son père ne rende l'âme. Et c'était vraiment un moment aussi fort pour moi. Et je lui dis, OK, je commence le film avec cette image. Tu me permets, il dit, OK, donc je dois filmer, je dois. Je dois raconter comment tu as ces papiers aujourd'hui pour ton père, pour qui je suis parti, et aujourd'hui qui décède pendant que tu as eu le sésame, on peut dire comme ça, et qui n'a pas le temps de célébrer cette victoire avec toi. Et il a dû attendre quelques temps avant de rentrer à Abidjan pour faire les funérailles, pour faire les sacrifices. J'ai commencé à filmer là. Bon, c'était un repérage filmé. Et par la suite, j'avais occulté Bourgeois dans mon film. Je dis, OK, je ne veux plus voir Bourgeois. Kader, c'est un personnage assez bien. Et quand Bourgeois me dit un jour, je veux rentrer au pays. Comment? Il dit, ouais, j'ai fait ce trajet pour ma mère. Elle ne se sent pas bien. Si elle meurt, je vais m'en vouloir. Et c'est comme ça l'idée de cette trilogie a commencé à s'articuler. Là, je suis en plein repérage parce que j'ai bien envie d'essayer d'autres formes d'écriture. J'ai bien envie de dire d'autres choses parce que Bourgeois, c'est moi avec une tête bien remplie. Bourgeois, c'est moi avec des papiers en France. Bourgeois, c'est moi et c'est moi parce que je suis allé à l'école. Et j'ai étudié, j'allais plus important et bourgeois c'est moi parce que tous les problèmes qu'ils rencontrent en France, je les ai vécus aussi quelque part. Et du coup, j'ai dit ok, c'est pas un film sur le retour forcément, c'est un film sur l'étranger. Sur l'étranger, et qu'est-ce que l'étranger en France ? L'étranger, on est français quand on est français de première, deuxième, troisième génération. On est français quand on est de père ou de mère. On est français. Et du coup, je décidais de questionner le mot étranger parce que le mot, il est étrange pour moi.
Et du coup, dans ce troisième volet, ce que tu décris est par ailleurs du coup l'histoire en parallèle de Kader, c'est ça, hein, qui sera aussi partie de ce.
Oui, là, j'ai quatre personnages, j'ai deux hommes, j'ai deux femmes.
Ok.
Ah, j'ai une femme, la compagne d'aujourd'hui de Bourgeois, qui est venue en France depuis 25 ans. Elle n'a jamais cherché à prendre la nationalité française. Elle travaille. J'ai un autre personnage qui est. Je disais une personne publique que je garde encore le nom parce qu'elle ne m'a pas encore donné son avis. Elle veut faire le film, elle a peur. Elle a peur, c'est normal parce qu'elle est française, sa mère est française, son père est malien. Son père a fait le même trajet que Bourgeois il y a 40 ans. Et aujourd'hui, son père était professeur d'histoire, il ne lui a jamais appris l'histoire du Mali. Par contre, elle connaît l'histoire de la France. Son père était professeur d'histoire, mais il ne lui a jamais parlé de l'histoire de sa famille. Et aujourd'hui, elle a la quête et elle se demande si. Elle n'est pas reconnue en tant que française parce qu'elle est métisse. Et au Mali, elle n'est pas reconnue en tant que malienne parce qu'elle est métisse. Voilà. Et du coup, c'est un de mes personnages. Et le personnage de Kader qui est en Italie. Ouais. Donc, du coup, j'ai quatre personnages, deux femmes et deux hommes.
On a hâte de voir cette suite. Et par ailleurs, tu me disais que tu viens d'en parler, en fait, sans rentrer dans les détails, mais que tu as commencé, entrepris un autre documentaire. Je ne sais pas si on peut dire le titre ou en tout cas le sujet.
Ouais, mais... ouais, ça je peux dire. Ouais, ouais, c'est le projet, en production, je dirais comme ça, en production, c'est Loin de moi la colère. Loin de moi la colère parce que pendant longtemps... la crise ivoirienne qui a déclenché l'envie de dire des choses avait sommeillé en moi plein de haine. Et j'ai constaté que cette haine que j'avais gardée vis-à-vis du pays voisin, le Burkina Faso, avait fini par m'envahir et par me freiner dans mon élan de cinéaste. Et du coup, je dis ok, je prends mon courage à deux mains quand je rencontre mon personnage, Maman Jo, qui est une dame qui vit à l'ouest de la Côte d'Ivoire où il y a eu un génocide, 3000 morts en une journée. Et elle a perdu son époux qui était burkinabé. Elle a perdu sa grand-mère qui l'a baptisée Tchémoignan, qui signifie loin de moi la colère. Et cette grand-mère a été calcinée dans sa maison. Et cette dame a décidé de partir, de rassembler toutes, les peuples. Parce qu'il y a Burkinabé, il y a Togolais, il y a Maliens dans cette région, parce que c'est une région assez riche. Elle produit en grande partie le plus grand tonnage de cacao, donc du chocolat. Et elle a décidé de réunir toutes ces personnes qui viennent d'horizons divers dans son village, parce qu'elle est originaire de ce village, et ensemble de faire parler les femmes qui ont été violées, qui ont perdu leur époux, afin de convoquer les hommes au grand jour sur la place publique pour leur dire que c'est nous les femmes qui souffrons quand il y a la guerre parce que nous perdons époux, frères, enfants, petits frères, et c'est nous qui mettons au monde et nous n'avons pas envie de mettre au monde pour enterrer.
Et tu. Donc il y a ce projet-là, et par ailleurs, tu as aussi des projets de fiction. Et donc, très hâte aussi de voir ce que ça donne quand tes fictions iront flirter beaucoup avec les documentaires, sans doute, ou pas. Mais voilà, il y a aussi ça, cet autre volet de ton travail.
Bon, j'ai promis à Diodo Amadi qui, quand on est Vive Riche, on a eu deux séquences. Déjà, c'est un grand cinéaste qui avait déjà fait des films. Et après une semaine, deux semaines de tournage, on a fait un pari. Il m'a dit, le personnage principal des quatre jeunes, c'est Bourgeois. Je lui dis, non, c'est Rolès. Donc après une séquence forte avec Rolès, il me dit, tu as eu raison. Et je t'ai dit, je te demande pardon, tu fais trois films documentaires avant de faire la fiction. Là, je vais faire cinq avant de faire la fiction. Donc du coup, je vais passer à la fiction et je pense que c'est ce qui m'a amené au cinéma, c'est la fiction. Le documentaire, j'ai pour habitude de dire, c'est la femme qui est tombée amoureuse dont j'ai fini par tomber amoureux. Et du coup, je suis obligé de faire un peu de fiction, même si je pense être documentariste dans l'âme.
Et cette fiction, tu n'as peut-être pas envie d'en parler parce que c'est très tôt, mais c'est quand même quelque chose qui a toujours à voir avec ce que tu essayes de soigner de tes propres colères
Par rapport à ton pays. Non, la fiction, je peux en parler parce que elle a sa troisième résidence, raison pour laquelle je serai obligé d'aller mercredi à Abidjan et le jeudi au Sénégal pour faire 2 semaines de résidence d'écriture. C'est que on fait des films pour guérir. Moi, je le dis comme ça, on fait des films pour guérir. Et j'avais pas compris pourquoi j'avais mal et pourquoi j'arrivais pas à être si proche des autres, parce que peut-être que j'avais pas reçu une certaine chaleur paternelle. Et j'ai écrit le projet, j'ai commencé à écrire cette fiction en 2015. J'étais à Luxor en Égypte après Awaga Film Lab en 2016, et j'ai bloqué parce que j'avais peur de guérir. Et pendant la résidence à Awaga Film Lab, en étant en pleine résidence, quand l'une des mentors m'a posé la question: pourquoi tu veux faire ce film? J'ai l'impression que tu ne dis pas la vérité. Et c'était Diane El-Tahri qui était ici, qui a animé une masterclass aussi, je pense. Et j'ai dit: Diane, tu as raison, je veux te parler toi seule, pas devant les gens. Donc je me confesse chez elle. Et la nuit, je sors cette phrase qui me dit: Joël, tant que tu ne réponds pas à cette question, tu ne pourras pas faire ce film. Et cette question, c'était: est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Est-ce que tu peux donner l'amour que tu n'as pas reçu? Est-ce que tu peux donner la chaleur que tu n'as pas reçu? Et du moment où j'ai commencé à avoir cette question dans mon esprit, je dis: ok, si c'est non, c'est parce que je ne veux pas. C'est oui, c'est oui. On peut donner ce qu'on n'a pas reçu parce qu'on a su ce qu'on n'a pas reçu.
Bon, ça fera beaucoup de projets très très forts qu'on a vraiment hâte de voir. Je voulais signaler aussi que tu étais enseignant à Abidjan, à la fois à l'INSAC où tu as fait toi-même tes études, mais aussi dans des universités privées, et que tu ne fais pas que faire tous ces films, tous ces projets et voyager tout le temps, mais tu as aussi cofondé une société de production, Les Films du Continent. Et je voulais juste quand même te demander, parce que je trouve ça très intéressant et assez rare, cette situation de cinéaste qui s'engage dans la production, parce que c'est évidemment pas juste pour déguiser la production de tes propres films. Vous accompagnez des auteurs, et toi tu es conseiller artistique, tu travailles avec quelqu'un qui est plus producteur à proprement parler. C'est quoi la ligne que c'est un collectif, mais que vous avez envie de défendre aujourd'hui? C'est quoi les films que vous voulez aider à émerger, à voir sur les écrans, et c'est quoi votre idée de ça?
Oui, l'idée de créer Les Films du Continent est arrivée en 2015. J'étais au FESPACO quand une jeune dame ivoirienne autodidacte qui a sa société de gestion immobilière mais qui adore le cinéma me rencontre pour dire: ah non Joël, elle était venue par l'intermédiaire de quelqu'un en échange, et elle me dit: non, il faut que tu aies une boîte, il faut que tu aies une boîte de cinéma. Je dis: non, j'aime pas l'administration, j'aime pas calculer, laisse-moi faire mes films. Et du coup elle insiste et je rentre en fin 2015-2016 à Abidjan, et je dis ok. Et dans l'idée, quand on crée à deux déjà la boîte, je dis: je suis pas producteur, tu n'es pas productrice, tu sais rien, on a besoin d'un producteur. Sinon, des producteurs dans la boîte, des administrateurs. Et au fur et à mesure, j'ai mon ami Biti Laurent, qui est le producteur délégué de la boîte, et Olivier Donuzo, qui est le producteur associé, qui est français, qui est script doctor. Du coup, qui viennent en tant que producteur. Et Biti Laurent, on a fait l'école de théâtre ensemble. Lui, il était très bon sur scène, il était bon comédien. Et c'était un ami qui... Tout de suite, quand j'écrivais, il voyait 2 grands films. Il a toujours raffolé sur ma première histoire jusqu'à aujourd'hui, sur la dernière. Du coup, j'ai dit lui, pas parce qu'il m'aime, mais parce que je sens qu'il a le flair. Il est beaucoup dur avec moi, pas parce qu'il est mon meilleur ami, mais il sait me dire c'est mauvais, il sait me dire c'est bon. Donc, il est allé se faire former au Sénégal en production, il est revenu. Et Olivier Donuzo, qui avait déjà sa bosse, qui avait déjà une longue carrière. Et du coup, on se met et on se dit, ok, on veut raconter des histoires d'ici pour le monde. Et du coup, notre slogan, c'est raconter pour exister, parce que moi, je dis, tous les contes que ma mère m'a dit je ne suis pas sûr de les retransmettre fidèlement à mes enfants. Il y aura forcément des choses qui vont se perdre dans le temps et par qui se raconte. Pourtant, l'image, elle reste. Elle reste. Et du coup, c'est raconté pour exister. C'est raconter les histoires de partout. Et cette boîte aussi, l'idée de créer cette boîte est venue parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, le cinéma documentaire n'est pas assez présent. Il n'y a pas assez de documentaristes. Et c'est vraiment aider les jeunes cinéastes qui ont des difficultés à faire des films. Parce que moi, je dis, pour faire un film, on a besoin d'une tête, une caméra et puis le son. Je ne suis pas dans l'économie faible de la production, mais je suis dans la création. Parce que quand on veut guérir, il faut raconter. Si tu veux faire des films, il faut d'abord faire des sacrifices à ton niveau. Parce que la relation d'un film, c'est le père, le producteur, et la mère, c'est nous les auteurs. Donc c'est un couple, et chacun fait un sacrifice pour l'éducation de l'enfant, pour l'évolution de l'enfant. Et le sacrifice de l'auteur, c'est d'aller, c'est de croire son projet, c'est de donner des moyens de pouvoir raconter son histoire. Et du coup, je dis, en créant cette boîte, on devient le père et on va chercher des mères pour raconter les histoires, pour faire des enfants, pour faire exister les histoires du continent. Et la boîte s'appelle Les Films du Continent, ce n'est pas du continent africain. Parce que moi, dans l'idée, quand je donnais le nom de cette boîte, pour moi, il y a un seul continent, c'est la Terre.
Et dans le continent, il y a conte. En tout cas, on est passé du conte comme premier élément de rapport à tout ça, et que ça reste le fil directeur chez toi, c'est pas rien. Est-ce que vous avez une question avant qu'on se quitte? Je crois qu'on a fait un tour qui est retombé sur ses pattes.
Une dernière question, s'il vous plaît.
N'hésitez pas, vraiment, on est entre nous.
En dehors du film, si vous voulez.
En tout cas, sur l'expérience de documentariste aussi, vous êtes, vous, si on ne s'abuse, étudiant pour la plupart en cinéma, en école d'art aussi, je crois. Voilà, n'hésitez pas aussi à réagir, peut-être par rapport au cinéma que propose Joël, ou à une question que ça pose, en tout cas, de se diriger des études au passage à l'acte. Mais voilà, si vous voulez profiter de cette présence pour... une question. Merci.
Deux.
Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile, qu'est-ce qui était et qui reste pour vous le plus difficile dans le documentaire pour réaliser un film. Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Que ce soit en documentaire ou en fiction, le plus difficile, c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée, c'est le rêve. C'est le plus difficile. Quand tu as l'idée, tu as tout. Parce que le reste, c'est supportable. Parce que on a mille idées, mais on ne croit en aucune. Et avoir une idée à laquelle on tient, c'est le plus difficile.
Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites après?
Quand l'idée vient, j'ai une très grande relation avec ma mère. Du coup, elle souffre, cette dame. Parce que quand j'ai une idée, je pitch le projet, la première des choses, du coup, je vais chez ma mère. J'ai dit, Dieu m'a encore parlé. Voilà l'idée. Quand je finis de pitcher, elle me raconte un conte qui va dans le sens de mon histoire. Elle me sort un proverbe. J'ai dit, ok, ça va. On s'est raconté de nos histoires et on avance. Et après, c'est Biti Laurent qui souffre. Au fait, moi, je dis toujours, depuis étudiant, quand tu as une idée, n'aie pas peur qu'on te vole l'idée, c'est que c'est une bonne idée. C'est bien de se faire voler les idées. Donc, pitchez les projets à vos amis, pitchez les projets à ceux qui sont proches, ceux qui ont des oreilles pour écouter. Et déjà, ce sont les premiers critiques avant de se mettre à écrire. Voilà. Donc, c'est un peu ça le processus.
Merci.
À moins qu'il y ait une toute dernière question, on doit quitter la salle. Donc, voilà, ce sera la toute dernière, malheureusement. Mais après, ça peut continuer aussi juste en dehors de la salle.
Ok.
Bah d'abord, merci beaucoup pour cet échange très très inspirant. Et dans la continuité, donc quand on a l'idée, quand on y tient, on passe à l'écriture. Qu'est-ce que vous écrivez? Et concrètement, en fait. C'est-à-dire que c'est une question un peu pragmatique, mais par quelle étape d'écriture vous passez?
Déjà, quand tu as l'idée, déjà, tu fais l'exercice de résumer ton idée en trois, moi je dirais en trois phrases maximum. En trois phrases, déjà, tu réduis ça parce que faut pitcher. Ah, voici l'idée que j'ai, c'est l'histoire de Lorenzo, un jeune qui a mal parce que son père était absent à sa naissance où il a perdu sa mère. Ça, c'est le pitch, je dirais, vite fait de ma fiction. Et après, j'essaie de diluer. Mais arrivé un moment, après, bon, du coup, mon pitch, mon résumé, le reste, je crie tout ce que vient de ma tête. Parce qu'on n'est jamais loin quand on raconte une histoire, on est dedans. Donc j'écris beaucoup, j'écris tout ce qui me vient en tête, tout ce que je pense. Je note, et puis j'envoie un ami qui lit bien et qui me critique. Il me renvoie, il me dit « Ah, je vois ça ». Je me fais beaucoup lire, je me fais beaucoup écouter au fait. Voilà. Donc je note tout et puis je dis « Pardon, il faut lire pour moi, il faut corriger les fautes, les syntaxes, tu vois. » Mais il faut se vider, et puis il faut être honnête quand tu racontes. Ce que tu as envie de dire, même si ce n'est pas le film, il faut l'écrire. Ça va servir quelque part pour le dossier.